Les amours malades, chapitre 22. Je m'étais éloignée un instant pour me rendre au distributeur automatique de boissons, car Laurent s'était plaint que la chaleur de l'hôpital lui avait desséché la gorge. Je revenais avec une bouteille d'eau minérale quand des cris me parvinrent. Laurent hurlait et deux autres enfants plus jeunes pleuraient. Je me précipitai dans la salle d'attente des consultations de pédiatrie et trouvai mon fils aux prises avec un gamin de 4 ou 5 ans. L'un et l'autre se disputaient un livre, tirant sur les pages au risque de tout déchirer. La mère du petit implorait Laurent de céder, mais lui, au contraire, couvrait son rival d'injures et de coups de pied. Un autre bambin de 2 ans sanglotait dans les bras de sa maman, terrorisé par le comportement de ses aînés. Je courus vers les deux combattants et arrachai le livre de leurs mains. Laurent avait vraiment envie de batailler, car avec ses 11 ans, il aurait très bien pu s'emparer du livre sans autant d'invectives et de coups. Le petit se lança immédiatement sur moi et me subtilisa le bouquin. « Mais qu'est-ce qui t'a pris ? » demandai-je au comble de l'exaspération, alors que Philippe, attiré par les cris, sortait de son bureau. « Que se passe-t-il ? » « Il m'a volé le livre que j'étais en train de regarder, » cracha Laurent d'un ton hargneux. « Baisse le ton, je te prie, » ordonnai-je. « Il est plus petit que toi, tu pouvais le lui prêter ou lui expliquer pourquoi tu tenais tant à le garder pour toi. Il y a d'autres moyens que la manière forte pour communiquer. »« Ah oui ? Et il fonctionne ?» m'interrogea Laurent avec un tel sarcasme que j'en restais quoi. « Monsieur Mouret, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais que vous permettiez à ces deux dames de passer avant vous. Je désirais avoir une conversation sérieuse avec vous. » Philippe avait employé un ton professionnel et m'avait vouvoyé. Il n'aimait pas donner l'impression de faire du favoritisme, et bien que nous soyons amis, il me traitait dans la salle d'attente, tout au moins, comme n'importe lequel de ses clients. « Mais bien sûr, nous attendrons. » « Mais pas du tout !» s'insurgea Laurent, dont la colère n'était pas tombée. « Nous avons rendez-vous maintenant. Je ne veux pas attendre. C'est notre tour. Je veux entrer tout de suite. » « Le docteur Arès souhaite parler avec nous et cela prendra un peu de temps, » expliquai-je patiemment. « Avec toi ? Il veut parler avec toi. » « Je suis sûre qu'il aura bien deux mots pour toi aussi. Non, je ne reste pas si nous ne passons pas à l'heure. » « Je n'ai aucune intention de bouger d'ici, » déclarai-je avec calme. « Veux-tu rentrer par le métro ?» proposai-je à mon fils en lui tendant un ticket. Il me dévisagea avec surprise et sa figure se décomposa. « C'est de la pure méchanceté, » murmura-t-il tristement. Je remis le ticket dans mon portefeuille et le portefeuille dans ma poche. Je me dégoûtais. À force de vivre au milieu des vexations, j'étais tombée dans le piège. J'avais humilié un enfant, mon propre enfant, en se moquant d'une de ses phobies, le métro. Laurent haïssait ce moyen de transport. En fait, plus que de haine, il s'agissait de terreur irraisonnée. Il rasait les murs dans les stations, de peur d'être happé par la locomotive et de tomber sur les rails. Sursautait violemment lorsqu'il entendait la sonnerie d'ouverture et de fermeture des portes. Était affolé à l'idée que ces dernières se referment sur lui quand il entrait dans les wagons et étouffait une fois assis à sa place. Nous ne prenions pratiquement jamais le métro lorsque Laurent était avec nous, car c'était lui imposer une épreuve aussi cruelle qu'inutile. M'être moqué de cette frayeur était inqualifiable. « Je suis désolée, Laurent, c'était ignoble de ma part, je n'aurais jamais dû. Pardonne-moi. Veux-tu que je te mette dans un taxi ?» Il aurait sans doute été préférable que je ne cède pas aux récriminations de mon fils, mais l'avoir peiné à ce point ne me faisait pas sentir fière de moi. Laurent refusa ma proposition d'un signe de tête. « Tu attends avec moi, alors ?»« Oui, mais il faut que Philippe se dépêche. Je n'ai pas envie de rester ici longtemps, » déclara Laurent sur un ton conciliant. « Je te promets que je ne serai pas long, » lui accorda Philippe en souriant. Malheureusement, le dernier patient demeura dans le cabinet plus que prévu et Laurent recommença à s'agiter. Il se levait, arpentait le tapis de plastique multicolore où était tracée une route pour des petites voitures que Philippe tenait dans une corbeille avec d'autres jouets. Il donnait des coups aux mobiles qui pendaient du plafond, se rasseyait, me demandait l'heure et se levait à nouveau. Je n'osais lui demander de se tranquilliser, de peur de provoquer un autre accès de colère. Finalement, la porte s'ouvrit sur le dernier petit patient souriant dans les bras de sa maman, et Laurent s'engouffra dans le bureau en écrasant les pieds de la pauvre femme. Il s'assit sur l'un des fauteuils placés en face du bureau et soupira à l'adresse de Philippe qui venait de refermer la porte. « Tu avais dit que tu n'en avais pas pour longtemps. » Ce petit avait plus de problèmes que je ne croyais, Laurent. « Tu as un autre rendez-vous, jeune homme. Tu me sembles bien pressé. »« Non ? Alors détends-toi. Qu'est-ce que tu voulais dire à papa ? Dis-lui et nous nous en irons. » « Avant de parler de cela, j'aimerais savoir pourquoi tu es venu me voir, » demanda Philippe. « parce que j'ai mal au ventre et à la tête. Mais papa m'a déjà ausculté, je n'ai rien. Alors que fais-tu ici? Papa n'a pas confiance en lui. Il est gastro-entérologue, pas pédiatre. Mais moi, je suis certain qu'il a raison. Allez, regarde-moi, dis ce que tu as à dire et laisse tout partir. Il est tard, ajouta Laurent en jetant un coup d'œil sur l'horloge murale où une abeille chevauchait la grande aiguille. Philippe me regarda et haussa un sourcil. L'état d'agitation dans lequel se trouvait Laurent l'inquiétait. Je le lisais dans ses yeux et partageais sa préoccupation. Si Laurent ne se calmait pas immédiatement, nous risquions une crise bien plus grave. Je m'agenouillai près de lui et pris ses mains dans les miennes. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Pourquoi cette hâte? Je dois faire mes devoirs. Tu les as fait avant de venir, et même très bien. J'en ai d'autres, bon Dieu. Laurent !»« Philippe, s'il te plaît, examine-moi, » conjura mon fils au bord des larmes en s'adressant à notre ami. « Va t'étendre, » lui enjoignit le pédiatre, « j'arrive. Viens maintenant, s'il te plaît, Philippe !»« Laurent, j'aimerais que tu te calmes un instant. Je ne peux pas te tâter le ventre si tu es tendu de cette façon. Alors nous reviendrons une autre fois. » Laurent se leva et se précipita vers la porte. Philippe le rattrapa et le bloqua en lui tenant les bras. « Qu'y a-t-il, bonhomme ? Nous sommes en retard. Ce n'est pas dramatique. Tu as peur de devoir sauter le souper ? Non ? Alors ? Elle va se mettre en colère. » Je tressaillis. « Qui ? Maman ? Ta maman sera fâchée contre toi parce que vous êtes un peu en retard ? C'est cela qui t'inquiète ? Pas contre moi, contre papa. » Philippe se retourna et je lus dans ses yeux tous les reproches qu'il avait déjà proférés à mon égard et ceux qui viendraient plus tard. Je ne parvins pas à soutenir son regard. « Je vais l'appeler, je lui expliquerai que vous êtes en retard à cause de moi. » « Ça ne servira à rien. Philippe, laisse-nous partir. Papa, dis-lui, toi !» Puis il éclata en sanglots. Philippe tenta de le serrer contre lui, mais il s'échappa et vint se réfugier contre moi. « Elle va le battre, tu l'entends? Elle va lui taper dessus encore une fois !» Je soulevai mon fils de terre et le serrai fortement dans mes bras. « Il ne faut pas t'inquiéter pour moi, Laurent. Non, mon trésor, il ne faut pas. Je lui dirai pourquoi nous sommes en retard. Elle ne me fera rien. Calme-toi, mon ange, calme-toi. » Je dus m'asseoir, car le poids de Laurent ajouté à celui de mon chagrin était plus que je ne pouvais en supporter. Je continuai à parler à mon fils tendrement, lui susurrant des paroles rassurantes, tout en lui caressant les cheveux et en l'embrassant. Il finit par se tranquilliser un peu et fit un geste que je ne le voyais pas faire depuis longtemps. Il enfila son pouce droit dans sa bouche et commença à le sucer. Ma gorge se serra et je cherchai de l'aide dans les prunelles grises de Philippe. Elles reflétèrent la compassion, mais aussi un « cela fait des années que je te le dis » qui augmentèrent ma détresse. Philippe vint s'asseoir à côté de moi et effleura la joue de Laurent. Ce dernier renifla et cacha plus profondément sa tête contre ma poitrine. « Alexandre, ça ne peut plus durer. Je ne peux rien faire pour t'aider si tu ne me le permets pas. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant que Laurent aille bien. Si, je parlerai devant lui, s'empressa-t-il de dire en réponse au geste du menton que j'avais fait pour désigner mon fils. Il en a assez vu et entendu pour supporter ce que j'ai à vous dire, et qui plus est, il est concerné au premier plan. Tu me l'as amené aujourd'hui parce qu'il souffre de maux de tête et de douleurs abdominales. Mais tu n'as pas besoin de mon diagnostic pour savoir qu'ils sont dus à la tension constante que sa mère et toi lui faites vivre. Ses résultats scolaires sont irréguliers. Même si je sais que c'est un gamin très intelligent, sa tendance à la violence avec ses compagnons ou d'autres enfants lui provoquera des déboires un jour ou l'autre. Ses cauchemars, ses phobies ne lui permettent pas de vivre sereinement. Je ne veux pas revenir sur les raisons que tu invoques pour refuser l'aide pour toi-même, mais tu n'as pas le droit de la nier à Laurent. J'avais pensé à te présenter un neuropsychiatre infantile de mes amis, qui est une personne extraordinaire. Mais son seul secours ne suffira pas. Tu dois éloigner Laurent de chez vous. L'éloigner ? Tant que Léa et toi n'aurez pas résolu vos problèmes, cet enfant ne peut pas rester avec vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais complètement paniquée. Je craignais que Philippe ne veuille prévenir les services sociaux et m'enlever mon fils. Je n'aurais pas survécu à une pareille épreuve. Je résistais au mauvais traitement de ma femme seulement parce que Laurent existait. Si on montait mon fils, je n'avais plus aucune raison de vivre. Inscrivez-le à la prochaine rentrée comme interne dans un collège. Ici, à Paris. Mais qu'il n'ait à supporter vos désaccords que le week-end. Et faites-le suivre par cet ami dont je t'ai parlé. Laurent, tu as entendu ce que je viens de dire à ton père ? Laurent retira son pouce de sa bouche et un mince filet de salive suivit son doigt. Il regarda Philippe, puis leva les yeux vers moi. « J'ai entendu, » murmura-t-il. Et qu'en penses-tu? Pourquoi papa et moi ne pouvons pas nous en aller ensemble? Parce que les juges laissent difficilement les enfants partir avec leur père. Même si leur mère est méchante? Ta maman ne t'a jamais fait de mal, n'est-ce pas? Non, seulement à papa. Je sais, Laurent, je sais. Si ta maman ne t'a jamais fait de mal, les juges penseront qu'il est mieux pour toi que tu restes avec elle. Ils pensent que les mères savent mieux ce qui est bien pour leurs enfants. Mais si les juges viennent à la maison, ils verront que c'est papa qui sait tout ce qu'il me faut. Seulement, si les juges viennent à la maison, tout le monde saura, et il ne faut pas que tout le monde sache. Fantastique, marmonna Philippe à mon attention. Ah, il n'y a pas à dire, vous avez fait du beau travail. D'accord, Laurent, laissons tomber les juges. Tu crois que tu pourrais rester dans une école toute la semaine et revenir à la maison le samedi et le dimanche? Pourquoi? Parce que de cette façon, ta vie serait un peu moins difficile qu'elle ne l'est pour l'instant. Ton papa et ta maman en profiteraient pour régler leurs problèmes et, quand le climat sera moins tendu, tu pourras de nouveau vivre en famille. Pourquoi? Tu crois qu'ils se disputent à cause de moi? Que si je ne suis pas là, ça ira mieux? Tu sais parfaitement que tes parents ne se disputent pas à cause de toi, Laurent. Mais papa, qu'est-ce qu'il fera? Je ne comprends pas. Il n'aura personne pour le défendre. Mais je suis tout à fait capable de me défendre tout seul, Laurent, protestai-je. Ce n'est pas vrai. Tu encaisses et c'est tout. Pourquoi ne te défends-tu pas? Quelquefois, j'ai l'impression que tu es un vrai lâche. Comment pouvais-je dévoiler à mon fils les mécanismes tordus de la loi? Comment pouvais-je lui faire comprendre que si je me défendais, je le perdrais à tout jamais? De quel droit aurais-je dû lui dire que si je continuais à supporter certaines épreuves, c'était seulement dans la crainte de le voir disparaître de ma vie? Je savais qu'il se sentait responsable de certaines des disputes que j'avais avec Léa. Il était impensable que j'augmente encore son sentiment de culpabilité en lui expliquant qu'il était la seule raison qui me faisait rester avec sa mère. Si l'idée de Philippe pouvait améliorer la vie de Laurent, elle rendrait la mienne un enfer continu, sans aucune espérance de purgatoire. Mais Philippe m'avait suffisamment supplié d'agir sans que ses conseils fussent jamais suivis d'effet. Il en avait assez de perdre son temps avec moi. Il avait abandonné ma cause. Il fallait songer à Laurent. Le reste. Tu ne dois pas penser à moi, mon chéri. Je veux que tu sois le plus heureux possible. Et selon toi, je serais heureux enfermé dans un collège sans jamais te voir. Je ne sais pas, Laurent. Je crois que ça vaut la peine d'essayer. Même un seul trimestre. Si tu te plais au collège, tu resteras. Sinon, tu rentreras à la maison. Et toi, tu seras heureuse en me voir? Je serai heureuse si je sais que tu te sens bien. Nous pourrons nous écrire. Tu m'enverras des emails. À l'hôpital, pas à la maison. Si tu veux. Je peux essayer. Un trimestre. Tu crois que maman voudra? Je pense que oui. J'en étais sûre, en fait. Se séparer de Laurent n'était certes pas pour Léa une épreuve insurmontable, au contraire. Je devais lui en parler, mais je n'avais aucun doute. Nous rentrâmes à la maison en silence. Laurent devait penser à la scène que me ferait sa mère à cause de notre retard et ne lâcha pas ma main durant le trajet en taxi. Vous en avez mis un temps? Nous accueillit Léa à Cariâtre. Laurent tenait encore ma main et se mit à trembler. Va te préparer pour le souper, conseillai-je à notre fils. Si tu étais moins incompétente, tu n'aurais pas eu besoin d'aller voir Philippe. C'est le comble qu'un médecin ne soit pas capable de soigner son propre fils. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Ce que j'avais préparé est trop cuit à présent, c'est immangeable. Vous irez vous coucher le ventre vide, cela vous apprendra à respecter les horaires. Et que je ne t'entende pas te relever cette nuit pour te faire un sandwich. Laisse au moins que Laurent. J'ai vu que tu lui avais donné de la glace pour goûter. C'est nourrissant. Il ne mourra pas ce soir, il va coucher sans manger. Léa, c'est un enfant. Il a besoin de s'alimenter régulièrement. Ça ne fait rien, papa, je n'ai pas faim, déclara Laurent, qui était allé se laver les mains. Allons-nous coucher, tu me liras quelque chose. Je suis fatiguée. Il n'est que 7h30, et puis je suis certaine que tu as faim. Alors tu ne comprends rien, hurla Léa en me poussant violemment. Papa, papa, allons-nous coucher, viens, insista Laurent. Il me tirait par la manche, les yeux fous. Je n'eus pas le courage de continuer cette discussion. Laurent avait déjà suffisamment souffert pour aujourd'hui. Je le suivis sans plus parler. Pourtant, avant de quitter le séjour, j'avisai Léa que je désirais discuter un projet avec elle plus tard. Elle se radoucit. Que je demande son avis lui donnait le sentiment d'être importante et généralement elle acceptait sans problème ce genre de débat. Elle me dit qu'elle m'attendait. Laurent était réellement abattu et s'endormit très vite. Je redescendis dans le salon où Léa était en train de se polir les ongles. Je lui racontai la proposition de Philippe, et comme je m'y attendais, elle l'accueillit avec enthousiasme. Elle déclara que je gâtais bien trop Laurent et que ça lui ferait du bien d'être un peu éloignée de moi. En outre, ne devant plus m'occuper de lui, je pourrais me consacrer un peu plus à elle. Elle se fit tendre et commença à me caresser l'entrejambe. Je n'avais aucune envie de faire l'amour avec une femme heureuse de se voir privée de son enfant et qui fêtait cela avec l'homme à qui elle venait de lui refuser le souper. Je prétextai la fatigue. Mais elle insista, dessinant sur mon thorax des cercles avec les petits ciseaux qu'elle avait sortis de son nécessaire à manucure. Je savais que si je n'avais pas cédé, les cercles qui n'étaient pour l'instant que des frôlements se seraient bientôt teintés de sang. Comme d'ordinaire, la peur fouetta mon désir et je fis l'amour avec ma femme comme s'il n'existait aucun problème entre nous. Sur le divan tendu de soie blanche, une autre scène fut évitée. Laurent ne se serait pas réveillé à nos cris et ma peau n'aurait pas été tatouée de nouvelles cicatrices. Une bonne soirée. Léa me demanda de la porter dans mes bras jusqu'à notre chambre. J'aurais voulu lui faire remarquer que j'avais le ventre vide et que je risquais de la laisser choir. Mais je freinai ma langue et installai ma femme dans notre lit sans incident et sans un mot. Je lui posai un chaste baiser sur le front, puis, avec l'excuse de prendre une douche, je voulus m'éloigner. Léa refusa de lâcher mon cou et prétendut que je devais être un amant extraordinaire si je voulais bien m'en donner la peine et que sur le divan, je n'avais pas donné le meilleur. « Je n'ai pas été gentille tout à l'heure, » murmura-t-elle. « Mais avoue que c'est ta faute aussi. Tu pouvais me prévenir de votre retard. Prends ta douche. Je vais te préparer quelque chose à manger. Et puis nous reprendrons notre petite discussion, mon amour. » Elle sauta lestement au bas du lit et courut entièrement nue jusqu'à la cuisine. Je savais que j'aurais mangé ce qu'elle aurait préparé, que j'aurais fait l'amour comme elle le désirait et que mon plaisir n'aurait pas été fin. Je savais que je me serais retrouvée quelques heures plus tard allongée dans notre lit, la tête de Léa sur mon sein, et que je me serais récité qu'elle était merveilleuse quand elle mettait de côté son agressivité et son sarcasme, que je l'aimais encore et toujours, que malgré tout, j'étais incapable de vivre sans elle, que ma vie à présent était construite d'une certaine façon, et que je ne pouvais plus rien y faire. La seule chose que je n'aurais pas supportée était qu'elle eût pu faire mal à Laurent, mais jusqu'à présent, elle s'en était bien gardée. J'étais capable de tout encaisser sur mon propre corps, mais il était inconcevable que Laurent pût pâtir à son tour. Le fait d'éloigner mon fils m'ôtait une grande partie de mes forces. Mais Philippe avait raison. Il ne pouvait pas continuer à supporter nos scènes. Il avait déjà assez souffert et en payait depuis trop longtemps les conséquences. Quand le scénario que j'avais imaginé se conclut comme prévu, j'attendis que Léa s'endormît, puis je me glissai dans la chambre de Laurent. Il dormait, recroquevillé sous sa couette, occupant une place minuscule. Il me fit penser à un animal blessé qui, réfugié dans sa tanière, se faisait le plus petit possible pour éviter que les prédateurs le surprennent et l'achèvent. Je l'observai un long moment, puis je commençai à déplacer les croquis qu'il avait abandonnés sur son bureau. Laurent, comme l'avait dit Philippe, était intelligent, mais ses résultats souffraient de hauts et de bas. La seule matière où il excellait depuis toujours était le dessin. Je m'absorbai dans la contemplation d'une œuvre au fusain. Il s'agissait d'une forêt touffue et sombre. Les rayons du soleil ne passait pas au travers des frondaisons. Au milieu de ces grands arbres serpentait un étroit chemin, et sur ce chemin, vu de dos, un enfant. Le gamin, immobile, levait la tête vers un ciel invisible, tenait les bras légèrement détachés du corps, et les mains aux doigts écartés semblaient attendre que quelqu'un les saisisse. De ce dessin émanait un poignant sens de solitude, une oppression insupportable, et aussi une prière muette. Il était évident que dans la vie de Laurent, manquait totalement l'intérêt maternel. Mais mon fils savait qu'il pouvait compter sur mon amour sans condition. Pourtant, le dessin prouvait que cet amour ne suffisait pas. Laurent se sentait effroyablement seul. Cette constatation me remplit de tristesse et je me détestai. J'étais un mari dont on se plaignait, un père inadéquat, j'en arrivais même à me questionner sur ma valeur en tant que médecin. Je m'assis sur la chaise en pin que Laurent avait décorée lui-même et fixai mon petit animal blessé qui avait des raisonnements d'adulte et des mots d'enfant, qui jurait comme un charretier, mais maniait le sarcasme comme les grands auteurs, qui frappait un bambin de 5 ans, puis s'enfilait un pouce dans la bouche. Laurent avait accepté de se séparer de moi et de ses habitudes sans sourciller, mais avait voulu que je lui lise Petit Poucet avant de s'endormir.